L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. L'atelier numérique, vous le savez, c'est chaque samedi de 16h à 18h, toute l'actualité high-tech et aussi de l'économie numérique. Avec autour de cette table, eh bien, les acteurs de l'atelier, les chroniqueurs de l'atelier que vous écoutez chaque samedi et que vous appréciez. Constance est là, Lila aussi, Antoine. Et du côté de San Francisco, c'est Nathalie Doré qui est là. Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Bonjour.
Jean de Chambure sera avec nous dans quelques minutes pour son Vue d'Asie. Au menu de cet atelier numérique tout à l'heure, la sélection de gadgets d'Antoine, notamment un casque qui fait pousser les cheveux. Antoine, il me tarde d'écouter cette innovation qui peut peut-être me rendre service. Mais on verra tout à l'heure. Notre focus start-up, notre enquête de l'atelier, on va parler encore une fois d'économie collaborative, hein, Lila. C'est notre saga sur l'économie collaborative qui se poursuit. Et puis après notre web stratégie, on s'intéressera à la stratégie digitale de Sanofi. Et puis notre passion selon Sanet tout à l'heure, notre world tour aussi. On ira, écoutez bien, à Sao Paulo et puis à l'île Maurice. Il se passe des choses numériques à l'île Maurice qui valent le coup d'être vécues et peut-être même d'être visitées. Hein, Lila, il faudrait qu'on fasse une émission localisée à l'île Maurice. Moi, je serais pour. Oui, je vois très bien le lieu.
Il paraît que les demandes de cartes de presse en ce moment et d'accréditation pour aller voir la Silicon Valley mauricienne sont tout à fait.
Oui, c'est en pleine explosion.
Cela dit, moi qui suis passé par là un jour de ma vie, j'ai vu effectivement qu'ils avaient une zone à fait numérique et qui a l'air tout à fait prospère.
Voilà, on en parlera tout à l'heure. L'actualité vue par 01net.com, Eric Le Bourlou aussi, ce sera en toute fin d'émission. Et pour terminer, Antoine, le crash test tout à l'heure, on évoquera quoi ?
On évoquera un mot qui a de surprenantes implications numériques et qui est le mot cocasse.
Cocasse ! On tape cocasse sur un moteur de recherche bien connu et on voit ce que ça donne.
Exact.
Bon, bah, ce sera tout à l'heure. Et à mon avis, le résultat va l'être.
J'espère.
Sans doute.
S'il vous fait pleurer, alors j'aurais échoué.
Ah non, surtout pas. Attendez. Non, pas un samedi après-midi comme ça, à la cool. Bon, merci en tout cas d'être là. C'est parti pour l'atelier numérique et on commence par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. On va commencer. Bah tiens, Antoine, pourquoi pas vous ? Tiens, ça faisait un moment.
Ben oui, alors je veux bien.
Ah ben écoutez, ça tombe bien.
Donc je vais vous parler d'un casque sans fil qui mesure l'activité du cerveau.
Ah c'est pas celui qui fait repousser les cheveux, ça sera pour tout à l'heure.
Non, alors on est dans le domaine de la médecine. Ce sont des ingénieurs américains qui ont développé un puissant système portable qui est capable de mesurer l'activité électrique du cerveau puisque, vous savez, c'est un peu comme dans Black et Mortimer, il y a vraiment, le cerveau produit vraiment des ondes électriques.
Et vous avez une activité, vous, électrique qui est faramineuse.
Faramineuse. Absolument, en dehors de l'hôpital. Oui. Il ne faut absolument pas me poser la main sur la tête parce qu'on se fait immédiatement électrocuter.
Ah oui, on reçoit des volts.
Voilà. Bon, blague à part, depuis quelques années, les avancées dans le domaine de l'électroencéphalographie, qui est donc l'examen du cerveau qui permet de diagnostiquer certaines maladies neurologiques, a donné naissance à des systèmes sans fil. Ce sont des systèmes à électrodes sèches qui n'ont pas besoin de gel pour rentrer en contact avec la peau. Pour l'instant, ces inventions sont restées marginales et leur puissance est restée limitée. Mais il y a une équipe qui est dirigée par Tim Mullen et Mike Yushi, deux ingénieurs.
On les salue.
Qu'on salue, bien sûr. Non, mais c'est plutôt Nathalie, d'ailleurs, qui pourrait les saluer parce qu'ils sont basés à Santiago. Ah. C'est des start-upers. Et donc, ils ont développé ce casque spécial ayant une puissance comparable aux machines utilisées dans les hôpitaux et qui, elles, sont pleines d'électrodes qui sont pas sèches et qui sont utilisés avec du gel. Il leur a fallu quand même 4 ans de R&D pour créer ce casque. C'est la start-up Cogionix et ils ont aussi créé un logiciel qui s'appelle QSP. Donc Tim Mullen est persuadé que dans le futur, l'imagerie neurologique sera du ressort des patients eux-mêmes qui seront munis de leur propre machine. Et donc en fait, on pourra de temps en temps ausculter soi-même son cerveau à l'aide de ce casque qui vivra donc en dehors de l'hôpital.
J'ai toujours rêvé, moi, d'ausculter mon cerveau.
Et,
bon, je pense que je m'ennuierai au bout d'un moment, mais bon, ça, c'est un autre débat.
Bah, pas du tout. L'auscultation de votre cerveau est probablement l'une des activités les plus passionnantes dont puisse rêver un être humain.
Je n'en attendais pas moins de vous, mon cher Antoine. Merci beaucoup. Tiens, on va enchaîner avec Constance. Après, ce sera Nathalie depuis San Francisco.
Alors, je vais continuer, moi, dans le domaine du cerveau. Alors, pour vous parler, tout pareil, dans le domaine médical, d'un petit implant qui peut redonner le contrôle aux personnes handicapées. En fait, c'est une équipe de scientifiques australiens qui vient de mettre au point cet implant qui fait la taille, en fait, d'un trombone et qui peut être inséré dans un vaisseau sanguin. Alors, il faut savoir qu'actuellement, en fait, les personnes handicapées peuvent, à l'aide d'un système manuel de joystick, établir une communication entre les différents éléments robotisés, voilà, les membres bioniques et leur volonté. Mm-hmm. Et donc là, grâce à ce système, ils pourront le faire directement par le cerveau et même contrôler leur fauteuil roulant électrique à terme.
Génial.
Par la pensée.
Ah ouais.
Alors en fait, comment ça fonctionne ? C'est une petite électrode qui capte les signaux neurologiques émis par le cortex et qui ensuite est capable de les transformer en impulsions électriques qui commandent les différents membres artificiels. Mm-hmm. Alors les premiers essais sur les humains vont avoir lieu en Australie à partir de 2017. Il faut savoir que déjà rien que dans ce pays, il y a 20 000 personnes qui souffrent de problèmes de lésions de la moelle épinière. Donc on réalise que voilà, c'est vraiment un marché énorme qui s'ouvre pour cette équipe australienne.
Merci beaucoup Constance. Nathalie Doré depuis San Francisco.
Oui, alors les deux news d'avant me faisaient vraiment penser à tous ces progrès sur les interfaces cerveau-machine. Bientôt, on va juste avoir à penser aux choses pour que les machines les fassent pour nous. Et alors moi, je vais complètement changer de sujet, désolée. Je vais vous parler, alors vous savez, on parle beaucoup des Oscars qui auront lieu à Los Angeles à la fin du mois. Et bien, moi, je voulais vous parler des Oscars de la tech qui ont eu lieu à San Francisco, bien sûr, capitale de la tech, et qui s'appellent les Crunchies Awards, qui sont organisés en fait par le média TechCrunch. Et c'était la neuvième année qui faisait ça cette semaine. Alors, certains gagnants, pour vous dévoiler un peu le palmarès, certains gagnants étaient attendus comme Slack pour le prix de la startup qui progresse le plus vite, ou encore Facebook Messenger pour le prix de la meilleure appli mobile. Mais il y en a d'autres qui était moins connu et qui mérite qu'on en parle. Il y a notamment la start-up Honor, H-O-N-O-R, qui a remporté le prix de la nouvelle start-up, donc start-up émergente. Et Honor, alors qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui fonctionne un peu comme Uber quand vous avez besoin d'un transport, mais là, en fait, vous utilisez la plateforme quand vous avez besoin d'une aide médicale. Donc c'est plutôt là sur le domaine des services à la personne. Et le projet a déjà séduit de nombreux investisseurs très connus ici dans le monde de la tech. Et donc l'objectif est vraiment de proposer des professionnels de santé qui viennent à votre domicile et l'objectif in fine et bien sûr de vous permettre de rester chez vous le plus longtemps possible. Donc ça, la flexibilité de Uber, c'est un peu quand je veux, où je veux, j'ai accès du coup à une infirmière, à une aide-soignante. Donc quand on sait que la population américaine des plus de 65 ans va doubler d'ici 2050, il y a vraiment un beau besoin de plateformes comme celle-ci pour les années à venir.
Merci beaucoup Nathalie. Lila Megraoua.
Oui, je vais vous parler d'une fintech berlinoise qui s'appelle Bartzalen. Alors, comme si vous êtes germaniste, Bartzalen, ça veut dire payer en espèces. Et donc, en fait, cette start-up entend faciliter aux adeptes des espèces, du cash, l'achat en ligne. Alors, j'imagine qu'en bon français attaché à votre carte de crédit, l'initiative peut rendre sceptique. Mais sachez que si pour les Français, le règlement par carte de crédit est plus ou moins un automatisme, il serait 70% à le préférer aux autres moyens de paiement, les Allemands, eux, préfèrent nettement les espèces. Or, l'e-commerce est en plein boom dans ce pays. Certaines plateformes continuent encore et toujours à réclamer un règlement par carte de crédit. Et donc, Bartzalen rend possible, comme je vous disais, le paiement en espèces, mais en ligne. Alors, comment ça marche ? Alors, dans les faits, sur la plateforme d'e-commerce qui est partenaire de Bartzalen, l'internaute va choisir le règlement par espèce. Ensuite, on lui envoie sur son téléphone ou par mail un code barre. Et alors, à partir de là, il n'a plus qu'à se rendre chez un commerçant partenaire. Donc, en Allemagne, ça représente 8 000 points de vente et régler son achat en espèces. Alors, entre-temps, la plateforme d'e-commerce a préparé le colis. Et dès le paiement, elle envoie un SMS et le colis en temps réel au consommateur.
Pas mal.
Et surtout, Bartzalen a passé différents partenariats avec des fournisseurs d'énergie et opérateurs télécoms pour D'accord. permettre également le paiement de factures en espèces, mais en ligne.
Antoine.
Et si, mon cher François,
oui,
vous qui êtes un footballeur émérite,
oui, c'est vrai.
Vous mettiez un coach dans votre ballon.
Ah oui, ça m'aiderait beaucoup.
Voilà, c'est ce que je vois Lila qui glousse, on peut le dire.
Non, elle glousse un petit peu.
Qui se rit quelque peu de vous, oui, car je pense qu'elle joue plus souvent au football que vous.
Je pense que c'est possible, c'est probable en tout cas.
Voilà,
c'est
probable. Elle fait la moue quand même.
Oui. Bon,
alors donc
c'est pas une footballeuse aussi émérite, je pense, hein, Lila.
Bon.
Pas autant que vous.
Donc,
vous, je pense que vous taquinez de la balle.
Moi, je n'arrête pas.
C'est vrai.
Donc le ballon de football inside ball vous permet donc d'avoir ce coach à l'intérieur de votre ballon. Alors en fait, il ressemble en tout point à un ballon traditionnel et évidemment, il réagit de la même manière quand on joue avec. Alors c'est plutôt un produit pour enfants, qui est d'ailleurs disponible en deux tailles selon l'âge de ses enfants. Et à l'intérieur du ballon, qu'avons-nous ? Nous avons des capteurs qui arrivent à détecter l'intensité de frappe, le nombre de tours de ballon sur lui-même, la distance parcourue et la trajectoire de la balle après la frappe. Il enregistre même le nombre de passes entre les joueurs. Alors, à la fin du match, évidemment, il va transmettre via Wi-Fi sur une application mobile, d'ailleurs à la fois iOS et Android, les données qu'il a collectées. Mmh. Mais il peut même donner les données, il peut même, comme un coach finalement, qui serait sur le terrain et qui se manifesterait bruyamment sur le terrain auprès des joueurs pour les encourager. Donc, le ballon peut donner des conseils en live pendant le match. Il suffit que le joueur ait un casque connecté au Wi-Fi et, par exemple, la voix de l'application lui dira « Tiens, ça, c'était ton meilleur tir » ou bien « Vise plus à droite », etc. Bon, sur l'appli, vous allez trouver aussi des tutoriels. Le ballon a une autonomie de 4 heures, donc normalement, ça permet...
Plus qu'un match normal.
Et il peut être rechargé en 1 heure, donc là aussi, plus que la troisième mi-temps entre 2 matchs. Donc voilà, il peut résister aussi aux conditions météorologiques, encore qu'il soit préférable de ne pas l'utiliser trop longtemps sous une grosse averse.
Bah oui.
Voilà. Adidas avait déjà lancé un smart ballon en 2007, mais c'était un smart ballon qui avait uniquement un suivi de données, tandis que là, c'est vraiment un coach, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Antoine.
Je voulais juste dire quand même que le ballon et son chargeur sont disponibles pour $99 à ceux qui ont participé à son financement sur Kickstarter. Donc ça coûte quand même moins cher qu'une navette spatiale. Hein.
Exactement. Allez, on enchaîne maintenant avec notre vue d'Asie et en votre compagnie, Jean de Chambure.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et il est temps de retrouver notre vue d'Asie avec Jean de Chambure depuis la Chine, vous le savez. Et comme chaque semaine, on est très heureux de le retrouver. Jean qui est à Shanghai. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Alors Jean, bonne année parce que ça y est, c'est le nouvel an chinois.
Et oui, merci François. C'est l'année du singe qui a commencé en Chine.
Ah, ça c'est important, le singe.
Ah oui, c'est un animal malin et on sait que les Chinois sont fort malins, en particulier quand il s'agit d'Internet.
Bon, alors rien à voir, on va maintenant évoquer les robots parce qu'il faut savoir que, tout comme les Japonais d'ailleurs, les Chinois vouent une fascination aux robots et derrière tout ça se cache quelque chose quand même, Jean.
Oui, exactement, François. Alors c'est vrai que c'est une fascination qui est peut-être encore un peu plus neuve qu'au Japon. Il y a eu une fascination dans les années 70, 80 et toujours un peu encore aujourd'hui au Japon. Mais là, vraiment, la Chine découvre des robots, un peu les robots dans tous leurs états. Je vous avais parlé il y a quelque temps de ce robot météo qui est une sorte d'intelligence artificielle qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui donne à la télévision le temps qu'il va faire en Chine et ça fascine complètement les Chinois. Il y a aussi énormément de drones. On voit de plus en plus de Chinois qui achètent pour leur loisir des drones. Il y a la fameuse société DJI qui est leader mondial quand même du drone, hein, qui est basée à Shenzhen. Il y a des tas d'applications intéressantes. Celle dont on parle de manière assez sympathique aujourd'hui, c'est celle qui est en fait un drone qui vient près de la frontière russe. Vous savez, le fleuve Amour qui sépare donc le Japon, la Russie de la Chine. Eh bien, il y a des animaux sauvages là-bas, des léopards et des tigres. Eh bien, il y a des drones en fait dans cette province du Jilin qui viennent surveiller ces animaux pour les empêcher de connaître des mésaventures puisque ce sont des animaux protégés. Et le gros sujet effectivement qu'il y a derrière, François, c'est, vous pouvez vous en douter, comme la Chine est en train de passer en gros à une économie de service avec des coûts du travail qui augmentent aussi, une modernisation tous azimuts de tous les secteurs d'activité, c'est en fait les robots d'industrie. Donc plus ça va, plus les robots d'industrie, bien sûr digitalisés, sont en train de prendre une place extrêmement importante tant dans le domaine de l'automobile que dans le domaine des composants électroniques. Alors pour en fait vanter les mérites et la technologie, l'adresse de tous ces robots-là, il y a eu une exposition tout à fait intéressante avec une performance qui a eu lieu en fait à Pékin. Et on a vu donc la performance d'un robot qui est fait par un certain Siasun. Siasun, c'est une entreprise près de Shanghai, une entreprise shanghaïenne, donc qui produit un robot en fait qui avec un jeu d'adresse avec un maître tai chi, vous savez ce sport chinois qui est entre la gymnastique, un espèce de geste de santé et d'art martial. Et bien en fait en 90 secondes vous voyez ce robot qui va grâce à des capteurs, grâce à des senseurs réagir de manière extrêmement rapide, extrêmement fluide, extrêmement précise au moindre geste en fait que le maître tai chi fait devant ce robot. Donc c'est très 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 impressionnant.
Ah oui.
Et évidemment derrière ça c'est l'idée que voilà ce fameux robot va pouvoir aider à, de manière plus prosaïque, mais évidemment très industrielle et très importante, à packager, à assembler d'objets, des tas de composants surtout industriels. Voilà, donc c'est une très très belle réussite technologique, une belle réussite d'innovation de Siasun. Je vous invite à aller regarder Siasun, donc S-I-A-S-U-N, ou Siasun. Donc c'est cette très très belle entreprise shanghaïenne.
D'accord.
Qui fait ce robot franchement super étonnant.
Voilà, la Chine, le futur pays des robots, ça c'est clair. Merci beaucoup Jean de Chambure. C'était le Vue d'Asie de Jean, comme chaque samedi. Et vous restez avec nous, la suite de cet atelier numérique dans un instant. On va retrouver le Silicon Carnet. Là, nous allons aller aux US avec Nathalie Doré. Et puis, le crash test juste après. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, ça sera notre focus startup et puis notre enquête de l'atelier. On va encore poursuivre notre saga concernant l'économie collaborative. Mais auparavant, notre Silicon Carnet depuis San Francisco, elle est avec nous, la directrice de l'atelier US, Nathalie Doré. Alors Nathalie, on va parler aujourd'hui des assistants virtuels. Alors c'est vrai qu'on en a déjà parlé sur ce plateau. Ils sont de plus en plus nombreux, hein.
Oui, c'est un sujet qui prend de l'importance, hein, que ce soit ici aux États-Unis ou même en Europe. Et ça s'explique notamment par le fait qu'il y a énormément de progrès techniques qui ont été faits, que ce soit en termes de reconnaissance vocale, mais aussi en termes d'intelligence artificielle, qui font que ça y est, on voit sortir de véritables services basés sur ces assistants virtuels.
Mais alors, de quel type de service parlons-nous, Nathalie ?
Eh bien, en fait, alors on connaît souvent les services génériques, hein, les assistants virtuels génériques comme Siri pour Apple, Cortana pour Microsoft ou même Google Now, qui sont là pour nous simplifier la vie de tous les jours. Mais on voit émerger maintenant des services spécialisés d'assistants virtuels bien particuliers.
On aurait donc plusieurs assistants virtuels spécialisés, hein ?
Ouais, c'est ça. Alors, par exemple, il existe désormais des assistants virtuels pour gérer votre santé, d'autres pour faire votre shopping, et enfin certains pour gérer vos finances. C'est prometteur, mais ça, pour être tout à fait honnête, cela reste encore au stade des services dits simples, et parfois, derrière certains acteurs, mettent quand même un petit coup de pouce humain derrière la machine qui devient l'assistant virtuel.
Alors on va revenir à cette infirmière virtuelle dont vous parliez il y a quelques instants. De quoi s'agit-il en fait ?
Alors, il s'agit d'un partenariat entre deux startups de San Francisco. D'un côté, MindMeld, qui a amené la puissance d'intelligence artificielle, et de l'autre côté, Sense, qui a amené, lui, sa connaissance santé. Elles se sont associées pour lancer cet assistant médical, ou plutôt, je dirais, cette assistante médicale, car elle s'appelle Molly. On la voit d'ailleurs sur l'appli mobile. Elle ressemble à un avatar. Et une fois que vous avez téléchargé l'appli mobile, eh ben, Molly vous pose des questions pour mesurer plein de choses, comme votre niveau de stress, ou aussi, elle vous propose d'enregistrer vos mesures, votre pression artérielle, votre poids. Et elle peut même vous rappeler de prendre vos médicaments. Donc voilà, elle propose plein de services autour de la santé. C'est censé vraiment faciliter les choses. Reste à voir le niveau de confiance pour que les gens rentrent leurs données de santé sur l'appli mobile.
Alors vous disiez que le deuxième usage concernait le shopping. On est sur un domaine encore complètement différent là, hein ?
Oui, alors et puis là on va pas parler de start-up, on a deux mastodontes qui sont positionnés sur le sujet, c'est Facebook et Amazon. Alors tous les deux proposent des assistants virtuels pour in fine faire du e-commerce, faire du shopping en ligne, et tous les deux ont pris des pistes très différentes. C'est assez intéressant. Amazon, lui, a fait le pari de lancer un objet connecté, hein, Amazon Echo, qui est déjà commercialisé aux États-Unis, alors que Facebook, lui, a plutôt tout mis sur son application de messaging, de messagerie Messenger. C'est du coup à l'intérieur de cette appli Messenger que vous pouvez faire livrer des fleurs, réserver un resto. C'est en test actuellement aux États-Unis, mais c'est Facebook, donc je parlais de petits coups de pouce humains, c'est donc Facebook qui pour l'instant, à côté de l'intelligence artificielle, à ils appellent ça des entraîneurs de machines pour que la machine devienne apprenante et in fine qu'elle puisse agir seule comme un humain. En tout cas, les deux géants du digital ont bien compris que le futur de l'Internet passera par la voix et le futur du e-commerce aussi. Et ils n'ont pas tort. Hein. Si on regarde les chiffres, aujourd'hui, 10% des recherches effectuées sur le net sont par recherche vocale. Et d'ici 5 ans, on devrait être à 50%. Donc la moitié des recherches sur le net par recherche vocale.
Bon, alors Nathalie, une fois qu'on a tout dépensé notre argent en faisant du shopping avec ses assistants, hein, on a besoin d'un autre assistant virtuel pour gérer ses finances, en tout cas s'il nous en reste.
Et oui, c'est ça. Donc là, il s'agit de Casisto qui répond à toute question sur votre compte. Donc là, on n'est plus sur la gestion de votre argent. Donc combien j'ai dépensé ce mois-ci au Starbucks, quel est mon solde sur le compte courant. Et il peut même transférer de l'argent de compte à compte. Donc c'est un outil prometteur qui sort de l'Institut de recherche de Stanford, le SRI. Et d'ailleurs, Siri aussi sortait de ce même institut. Mmh. Et nous l'oublions pas, Siri était quand même le précurseur sur ces sujets de reconnaissance vocale.
C'est vrai. Merci beaucoup. À quand l'assistant vocal qui aiderait les animateurs journalistes qui font de la radio? Ça serait pas mal, ça. Il faudrait peut-être suggérer l'idée à vos chercheurs à San Francisco. Nathalie, merci beaucoup. Antoine, pas besoin d'assistant pour vos gadgets, hein?
Non.
Bien sûr.
Mais un cheveu, oui.
Un cheveu?
On a besoin d'un cheveu.
Écoutez, peut-être même voilà. Plusieurs parfois.
Voilà. Et donc celle-là, elle est vraiment au poil près, quoi.
Oh
donc,
non.
Si si. Ah donc, oui. c'est, vous aurez compris, c'est un casque qui fait pousser.
C'est un casque.
Un casque. Oh, oui, j'ai déjà parlé de casque.
C'est vrai.
Et là, c'est un casque qui fait pousser les cheveux.
Ça, c'est génial.
Voilà.
Quand même.
Donc en fait, alors la société qui l'a lancé, ils sont très malins en marketing. Ils l'ont appelé iGrow. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que vous coiffez ce casque pour écouter de la musique, hein, parce que sinon vous n'allez rien faire sous un casque. Donc vous écoutez de la musique, et pendant que vous écoutez de la musique, des diodes luminescentes et des lasers stimulent vos follicules pileux, je dis bien. Et donc, pour que les résultats soient significatifs, la société recommande d'utiliser le casque 3 à 4 fois par semaine pour des séances quand même de 20 minutes pendant 6 mois. Je ne vous cache pas que la communauté scientifique est relativement
dubitative,
et dubitative par rapport à cette innovation.
Oui.
En gros, ils disent, oui, si vos cheveux sont en bonne santé, ça pourra stimuler leur pousse, mais... Ça, ne vous faites pas trop d'illusions quand même. Ça ne, justement, là où le follicule
voilà, il n'y a plus rien qui va se passer.
Bon,
on est d'accord.
Bon, mais enfin voilà, si vous avez envie que vos cheveux poussent plus vite quand vous écoutez de la musique, vous pouvez quand même débourser 850 € pour vous offrir petit bijou.
Ça c'est cool.
D'accord. Oui, en même temps.
Donc j'aurais plus de cheveux, mais j'aurais plus qu'un bras.
Voilà, en
fait.
Même temps, si vous avez un rendez-vous toutes les semaines avec une jeune femme qui vous dit j'aimerais vraiment que tu aies plus de cheveux.
Ah oui.
Et que ça vous évitera de lui dire, écoute, on se revoit dans 6 mois. Voilà. Bon, j'ai essayé d'utiliser, de voir vraiment à quoi ça pouvait servir.
C'est vrai. Voilà. Vous êtes allé au fond de la réflexion. Voilà. Une dernière petite gadget rapide.
Oui, que j'adore. C'est le Rocket Boot Wave.
Ah oui. Rocket Boot, c'est autre chose, je pense.
C'est un cahier de notes.
Ça peut pas forcément une arme, d'ailleurs.
C'est c'est un cahier de notes.
Ah, ça vous perturbe.
Ondable qui envoie les données dans le cloud. Alors voilà, vous prenez des notes, sur votre petit carnet,
d'accord,
qui est évidemment un carnet numérique, hein.
Oui.
Donc lorsque vous avez envie de conserver cette note, eh bien, il vous est possible de l'envoyer sur le service de cloud de votre choix en appuyant sur un petit bouton qui est en bas de la page. Et donc, ça vous l'envoie sur Google Drive, sur Dropbox, etc. Ou évidemment sur votre boîte mail aussi, si vous en avez envie. Donc, en cliquant sur cette petite icône. En fait, chaque service de cloud a une petite icône.
Une petite icône, on choisit.
C'est plutôt sympa. D'accord. Et alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que lorsque le carnet est plein, qu'est-ce que vous faites avec? Eh ben, vous le mettez au micro-ondes.
Pour réchauffer.
Oui.
Ou on le mange,
oui,
peut-être.
Non, pas non. Du tout. Pour le mettre vous le mettez au micro-ondes et ça le vide.
Non.
Si.
C'est pas vrai.
Si.
Mais c'est génial.
On n'est pas en avril, hein.
Non.
Si je vous l'avais fait le 1er avril, celui-là, vous ne l'auriez pas cru. Eh bien, pas du tout. C'est bien
d'accord.
Ça. Donc, le carnet, évidemment, résiste au micro-ondes. Hein,
ben, vaut mieux. Voilà.
Et la seule chose dans le carnet qui ne résiste pas au micro-ondes,
ce sont
les notes que vous avez
c'est
enregistrées.
C'est la mémoire, peut-être qui
voilà,
est...
oui, tout à fait. C'est une mémoire qui se dissipe à la chaleur.
Bien dit.
Et donc, la livraison de ce carnet de notes financé sur Kickstarter est prévue en août 2016 pour un prix, finalement, assez raisonnable de $27. Mais
oh, ça va.
Ne le confondez pas à ce prix-là, quand même, avec votre pizza.
Non, c'est sûr. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de fromage dessus. Merci beaucoup, Antoine. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, ce sera notre web stratégie. On va s'intéresser à l'innovation chez au groupe Sanofi. Donc, quand même un gros morceau. Ce sera avec vous, Lila. Lila qu'on va retrouver d'ailleurs dans un instant pour notre enquête de l'atelier. On va poursuivre notre saga sur l'économie collaborative dans une minute. Mais auparavant, toujours avec vous, Lila, on va s'intéresser au forum NetExplo et plus précisément faire un focus sur la start-up Amino avec vous.
L'atelier numérique sur BFM Business.
On va découvrir la start-up Amino, qui est l'une des lauréates de l'observatoire NetExplo, le forum NetExplo qui a eu lieu cette semaine. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Julie Legault. Bonjour.
Bonjour.
Alors Julie Legault, vous êtes fondatrice de la start-up Amino. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi Amino consiste ?
Donc, Amino est un kit de hardware, donc c'est une plateforme afin d'éduquer les gens, les non-scientifiques, si on veut, comment utiliser la biotechnologie, qu'est-ce que la biotechnologie et la biologie synthétique, afin d'apprendre un peu plus sur les GMO, sur toutes les organismes qu'on peut utiliser, mais aussi en même temps de pouvoir créer nous-mêmes grâce à des instructions et un kit d'application. Donc, par exemple, on peut créer une veilleuse avec le DNA d'une luciole ou on peut créer des pigments avec des DNA de différents organismes.
D'accord. Donc, en fait, pour se représenter, c'est un peu la boîte du petit chimiste destinée aux enfants principalement?
En fait, oui. Donc, c'est assez facile pour un enfant d'utiliser, mais c'est aussi assez powerful pour un adulte d'utiliser. Donc, les premières applications qu'on peut faire avec la boîte sont plus destinées aux enfants et à l'éducation. Donc, on va rentrer dans les écoles afin d'être sûr que les enfants ont une expérience hands-on quand ils apprennent la biologie synthétique et la biotechnologie. Mais ensuite, on va développer des applications qui nous permettent de mettre différentes saveurs à la levure, différentes composantes, vitamines, donc plus de vitamine A, vitamine K. Et ensuite, on peut créer notre bière, on peut créer notre pain, nos gâteaux avec cette levure. On peut ensuite créer des parfums, des médicaments aussi.
C'est vraiment étonnant. Donc, Julie Legault d'Amino, comment vous est venue l'idée de cette boîte? L'idée, c'était d'évangéliser un peu, de renseigner, de donner envie à tout un chacun de s'intéresser à la biologie synthétique et au biotech.
Oui, bon, je suis designer. Pour les 10 dernières années, j'ai étudié en design et créé des projets. Puis, j'étais à MIT. J'ai eu un workshop sur la biologie synthétique et j'étais vraiment impressionnée par comment la biologie synthétique touche toutes nos vies, les savons à lessive, ce qu'on mange, ce qui donne énergie. Mais en même temps, ce qui était vraiment fascinant, c'est qu'en 2-3 jours, j'ai réussi à créer un organisme vivant avec un DNA d'une cellule de la rainforest qui donnait un pigment violet, mais qui était aussi une composante anti-cancer. Donc, en 3 jours, avec aucun background, j'ai réussi à créer cela. Donc, j'étais dans une situation favorable. J'étais à MIT, on avait quelqu'un qui nous donnait le workshop. Puis l'idée, c'était de repackager cette workshop pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que moi, ça m'a donné beaucoup d'insights sur ce que sont les GMO, comment ça s'applique à ma vie, c'est quoi les décisions que je veux prendre. Donc, l'idée, c'est de donner ce pouvoir à tout le monde dans un format facile à la maison.
Aujourd'hui, vous travaillez avec des biologistes de formation pour composer, améliorer cette boîte?
Oui, en fait, on a un scientifique qui était à l'Université de Cambridge. Il a fait 10 ans environ en biologie synthétique, donc on est entre bonnes mains. Et puis, ce qu'il fait, c'est qu'il nous permet de faire des applications assez faciles qu'on peut dire, prends le tube tube bleu, mélange-le au tube mauve, puis ça y est.
Merci beaucoup, Julie Legault. Je rappelle, vous êtes fondatrice de la start-up Amino, qui était l'une des start-up lauréates et repérées par l'observatoire Netexplon. Merci beaucoup.
Lila Megraoua, on poursuit avec vous maintenant et en compagnie de nos invités pour notre enquête de l'atelier. Et on poursuit donc notre série sur l'économie collaborative.
Tout à fait, parce qu'il est peu dire que le sujet remue en ce moment entre
surtout encore une fois cette semaine,
grève des VTC, Hitch qui, il y a deux semaines, s'est fendu de ses recommandations pour survivre. Oui. Et enfin, cette semaine, le député PS Pascal Terrasse qui a remis au Premier ministre un rapport sur l'économie collaborative.
Et la fiscalité aussi.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait. Alors, on recevra plus tard pour la passion un avocat, Arthur Mirand, qui a composé un livre sur le sujet,
oui,
qui nous donnera un peu les clés pour comprendre ce qui existe déjà en matière de régulation. Mais avant, on va demander l'avis de deux acteurs français de l'économie collaborative. Benoît Châtelier, bonjour.
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 Alors, Benoît Châtelier, vous êtes CEO d'Ubico. Et nous avons également en studio Julien Desarnaud. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, Julien Desarnaud, vous êtes CEO d'Elocasa. Alors, juste pour rappeler vos activités respectives. Alors, Ubico, c'est un service de réservation multimodale pour les particuliers, à savoir que vous agrégez sur votre plateforme différents modes de transport automobile, autopartage, voiture VTC ou location de voiture en agence. Et Elocasa est une jeune start-up qui fait de l'intermédiation, à savoir que vous faites la passerelle entre particuliers et artisans professionnels en gérant toute la chaîne de A à Z. J'ai tout bon ?
Parfait, c'est exactement ça.
Alors, comme je mentionnais, le rapport Terrasse a été remis cette semaine. Alors, on a quand même la sensation qu'il est plutôt positif. Le député a déclaré vouloir redonner un sens à l'économie collaborative. Alors, quel est votre sentiment concernant ce rapport, messieurs? Benoît Châtelier?
En effet, plutôt positif. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on lit les commentaires au lendemain donc de la remise du rapport, eh ben les startups sont satisfaites et puis les entreprises disruptées sur leur marché se disent également satisfaites. Je crois que c'est la première fois qu'on avait un rapport qui semble-t-il mettre tout le monde d'accord. Ensuite, il faudra voir la mise en œuvre du rapport et l'application dans la loi. Mais en tout cas, au stade, en tout cas, de la remise du rapport, tout le monde avait l'air plutôt satisfait.
Alors, sachant que le député Pascal Terrasse mettait énormément l'accent, enfin, redonner ses lettres de noblesse à l'économie collaborative, notamment en excluant certains géants de l'économie collaborative, en disant qu'il s'agit non pas d'économie collaborative, mais d'ubérisation, en pointant notamment Uber et Airbnb. Julien Desarnaud, je vous vois hocher la tête. Quel est votre sentiment pareillement par rapport à ce rapport?
C'est un bon rapport bien complet à la française, un beau travail. Ce qui est important, c'est qu'on retient que il y a une conscience qu'il faut vraiment continuer à développer toute cette économie numérique et collaborative. Pour moi, les bons points, c'est que ça prône plus de clarté. Un des objectifs, c'est aussi de mieux encadrer ce marché-là. Et ça, je pense que c'est pour le bénéfice de tous, que ce soit les clients, mais aussi les intervenants comme nous-mêmes, par exemple.
Alors, dans ce rapport, il y a la question de la transparence qui revient assez souvent, à savoir que Pascal Terrasse enjoint les plateformes dites d'économie collaborative à être davantage transparents en matière de tarifs, de conditions, tout ça de manière générale. Est-ce que vous pensez qu'il y a un déficit aujourd'hui de ce côté, Benoît Châtelier?
Certainement. Enfin, après, il y a sur ce marché beaucoup de start-up. Par définition, une start-up, c'est une entreprise qui se met en place, qui met en place des process, qui met en place pas mal de choses, et donc c'est très bien de lui donner des guidelines, il n'y a aucun problème. Je pense que tout le monde est pour de la transparence, y compris dans le monde des start-up. Pour autant, c'était pas forcément une volonté d'être opaque. Au contraire, je pense que on nous impose de la transparence. Il n'y a aucun problème, il n'a jamais été question de cacher quoi que ce soit aux clients. Il faut juste se mettre à la place d'une start-up. Il y a des choses qui se mettent aussi en place progressivement.
Julien Desarnaud.
Pour moi, je pense que c'est pas la priorité du rapport. Je pense que la transparence, elle est déjà là. Aujourd'hui, vous êtes client, vous avez accès à des tonnes d'offres sur Internet en quelques clics. Après, par exemple, un des points sur les avis et les notations, bah, aujourd'hui, tout est là. Que soit nous, chez Locasa, nos prestataires, ils sont notés, évalués par les clients. Toutes ces plateformes, finalement, utilisent ce type de méthode. Donc, pour moi, c'est pas la priorité. Je pense qu'il y a bien autre chose à faire.
Alors, on a encore un autre point du rapport, c'était notamment la fiscalisation de l'économie collaborative. Pascal Terrasse, pareil, rappelle, enjoint les startups de cette économie à prendre également leur responsabilité. C'est plutôt une bonne. C'est déjà le cas, je suppose, pour Ubico, Elocasa. J'imagine que sur Elocasa, les artisans déclarent leurs revenus.
Alors, tout à fait. Nous, on travaille avec des artisans qui sont des professionnels. Donc, ils ont déjà un statut, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou qu'ils aient une société. Donc, tout est déclaré. Et justement, un des objectifs d'Elocasa, c'est de lutter contre le black. Après, à mon avis, le rapport, dans ce sens-là, il s'adresse plutôt gens qui utilisent des particuliers.
Voilà, c'est ça.
Ce qui n'est pas directement notre cas.
Il n'est pas forcément votre...
Et où, effectivement, on peut comprendre, en prenant un peu de recul, on peut comprendre le besoin qu'il y ait une certaine forme d'équité entre des particuliers et des professionnels.
Oui, je suis pas sûr que tous les utilisateurs d'Airbnb déclarent au centime près les recettes qu'ils engrangent chaque année. Je pense que c'est surtout ça, hein. On est d'accord.
C'est
la question,
bien sûr.
Qui est pointée. Et ça paraît assez logique qu'on aille dans ce sens, que là aussi, les utilisateurs de ces services, ou les bénéficiaires de ces services, ceux qui gagnent de l'argent grâce à ces plateformes, à un moment déclarent.
Mais qui doit communiquer là, à votre avis? C'est la personne qui loue son appartement, ou est-ce que c'est par exemple Airbnb qui devrait donner ces informations?
Je pense que le sens de l'histoire, en tout cas, sans dire qui devrait le faire, mais je pense que le sens de l'histoire, c'est plutôt les plateformes, puisque les plateformes ont toutes les informations. Mmh. Et il semble quand même, ce qui se dégage de ce rapport et des autres rapports qui ont précédé, aujourd'hui, les plateformes vont devoir communiquer auprès de leurs clients ce qu'elles ont éventuellement, ce que ces clients ont gagné sur les plateformes. L'étape prochaine, c'est sans doute qu'il y aura une communication à des instances telles que le fisc.
Ouais,
ça paraît très logique.
Mais une entreprise comme Airbnb américaine communiquera ces informations sans aucun problème au fisc? Enfin, alors évidemment, mais on peut se poser la question.
Ça, c'est à eux qu'il faut poser la question.
Est-ce qu'il existe déjà des pays où ils le font? Ou est-ce que ça serait une première?
Je lisais que dans le rapport, vous avez un des pays en Europe, alors je sais plus lequel, mais où effectivement ça se fait. Il y a une communication entre les plateformes et les autorités fiscales.
On serait pas les premiers, en tout cas.
On serait pas les premiers.
D'accord.
Et ça serait intéressant d'essayer d'harmoniser justement un peu les pratiques, c'est-à-dire que une plateforme, une start-up française aujourd'hui, une plateforme française va se développer, doit se développer dans 25 pays, 90 pays, c'est l'ambition. C'est vrai que si chaque pays vient avec un cadre réglementaire différent,
on
peut imaginer que derrière, une plateforme, c'est une technologie, c'est des opérations. Tout ça, ça complexifie justement le principe de la plateforme qui doit être d'offrir une expérience utilisateur la plus fluide possible, la plus simple possible pour qu'elle fonctionne. Et donc si on pouvait réussir à se mettre
harmoniser,
d'accord au moins avec nos voisins, ça nous permettrait à nos
plateformes... C'est peut-être un peu pieux, non, ça ça m'a l'air d'être un peu compliqué,
je
non
sais pas. Mais bon, la Commission européenne y travaille de toute façon. Donc, en tout cas, faut imaginer aussi la complexité que ça peut avoir, que ça peut générer au niveau des plateformes et donc... pas aller trop vers cette complexité.
Est-ce qu'à trop vouloir réguler, on risque pas de ralentir le développement, la croissance de toutes ces plateformes?
Alors moi, voilà, c'est un peu mon inquiétude quand je lis ce rapport. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi quand même quelques restes d'étatisme français, excusez-moi. Mais on parle de centraliser, d'avoir une agence qui noterait les plateformes, des mécanismes pour vérifier les avis, etc. Tout ça, à mon avis... partie plutôt de mécanismes ou de réflexes un peu du passé. Et là, je pense que si on insistait sur ce type de lourdeur, bah là, on risquerait de ralentir un peu cette économie-là. Ce serait dommage.
Benoît Châtelier, est-ce que vous partagez cette inquiétude?
Oui, et d'autant que je trouve que le développement des plateformes, et là, je prêche pas pour ma paroisse, le développement des plateformes a véritablement... permis le développement de nouveaux marchés, de nouveaux usages, l'apparition de nouveaux clients. En fait, tout ça vient de la polémique, on va dire, VTC Taxi, dont on entend parler presque depuis 2 ans et demi aujourd'hui. Cette polémique, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on essaie de dédiaboliser un peu les choses, la réalité, c'est que le marché du taxi ou équivalent taxi à Paris a sensiblement, significativement grossi ces dernières années. Tout le monde devrait être content. Il y a plus de clients, qui paient des courses plus chères. Donc le prix de la course a augmenté
grâce au VTC.
Ça a grossi le marché. C'est pas les taxis, les VTC, donc 1+1=1.5, c'est 1+1=1,9. Certes, il y a de la cannibalisation, mais faut pas s'arrêter à ça, à ce petit morceau de cannibalisation. Nous, donc, on travaille avec ces plateformes de VTC, on les intègre, on les agrège, on les offre à nos clients. Et ce qui est certain, on teste, on sonde nos clients, les utilisateurs. Et par exemple, les populations qui aujourd'hui ont 25 ans, sautent dans un Uber comme ils prenaient le métro ou ils prennent encore le métro.
Alors qu'avant, ils ne prenaient pas un taxi.
Ils n'auraient jamais pris le taxi.
Bien sûr.
Parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait une idée reçue que c'était cher. Tout ça est en train de tomber, malgré tout, grâce aux collaboratifs. Donc,
enfin, les jeunes prennent surtout Hitch, plutôt qu'un Uber. Hitch,
ils prenaient beaucoup Uber
mais
Pop.
Après, ils prendront Uber un peu plus tard.
Oui, voilà, un petit peu plus tard, quand ils auront un petit peu plus d'argent.
Peut-être une autre comparaison. Des plateformes de location de voitures entre particuliers. Ça a fait venir des clients à la location de voitures. Oui. Derrière, ils s'aperçoivent que, en allant sur Internet, la location, par exemple, chez Europcar, n'est pas plus chère, en réalité. Et donc, opérateur particulier, je vais choisir en fonction de ce qui est le plus pratique.
Ça crée de nouveaux consommateurs.
Ça attire de nouveaux consommateurs. Donc, attention de ne pas casser cette dynamique. On a besoin de dynamisme en France. Là, on a une dynamique qui s'est créée depuis 2 ans. Attention de ne pas la casser, de la tuer dans l'œuf.
Ouais, et puis en plus, on n'a pas l'impression que cette histoire d'Uber contre taxi va se régler très vite. Hein.
Non, et puis, enfin, moi, je
c'est voilà, un peu long.
On rigole quand même un petit peu à chaque fois. Oui, le Uber Pop était un problème. Donc le peer-to-peer doit être réglementé. On parlait de fiscalité, on peut parler de qualité du service, etc. Faut quand même pas oublier qu'Uber, c'est un VTC, c'est aussi Uber X pour ceux qui connaissent,
qui ont toute l'égalité,
qui opère en toute l'égalité,
évidemment,
et qui offre un service de bonne qualité. Donc il y a pas de, enfin c'est pas pour faire la promotion d'Uber, mais toutes les sociétés de VTC à Paris aujourd'hui offrent un service de qualité et dans la légalité et les taxis aujourd'hui aussi sont en train véritablement de réévaluer leur niveau de qualité, ce qui fait plaisir, je pense, aux Parisiens.
Voilà, et on salue à la fois les chauffeurs de VTC et les chauffeurs de taxi qui nous écoutent. Voilà.
Et
cet
après-midi. Casa et Ubico.
Et également. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. À suivre notre web stratégie spéciale Sanofi. C'est dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Notre passion selon Sonnette dans un instant. Mais auparavant, notre web stratégie. Et cette semaine, on s'intéresse à la stratégie digitale du groupe Sanofi avec vous, Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
On va parler santé connectée et mobile avec Gilles Littmann. Bonjour.
Bonjour.
Alors Gilles Littmann, vous êtes directeur innovation et performance de Sanofi France. Vous participez aujourd'hui au trophée de la santé mobile. On s'était déjà vu il y a un an pour aborder une première fois la vision de Sanofi France en matière de santé connectée et mobile. Aujourd'hui, où s'en est ?
Alors je dirais que par rapport à notre dernière discussion, nous avons continué d'avancer dans cette direction qui est celle de la santé mobile et connectée, parce que nous sommes toujours aussi convaincus de son potentiel pour améliorer la prise en charge des patients et globalement l'efficience du système de santé. Quelques exemples concrets. En 2015, nous avons rencontré environ 100 startups et nous avons décidé d'en aider un certain nombre, par exemple en leur proposant d'être incubés soit au village du Crédit Agricole pour 7 d'entre elles, soit à l'incubateur e-santé de Boussicaud de la ville de Paris qui en héberge depuis déjà un certain temps une dizaine. Nous venons, la semaine dernière, j'étais à Bordeaux pour lancer le début des travaux pour inaugurer un village du Crédit Agricole à Bordeaux, parce que nous croyons beaucoup à l'innovation en région. Nous avons également signé l'Alliance pour l'innovation ouverte du gouvernement et d'Axel Le Maire, parce que nous sommes convaincus qu'en tant que grand groupe, nous avons un rôle à jouer pour aider ces sociétés. Et puis je dirais qu'au-delà, au niveau du groupe Sanofi, nous avons également signé un partenariat avec Google pour améliorer la prise en charge des patients diabétiques. Donc autant de signaux qui montrent notre volonté forte de continuer à être un acteur de la santé mobile et connectée.
Est-ce que ça veut dire que votre vision innovation chez Sanofi France passe forcément par des partenariats, ou est-ce que vous développez en interne vos propres applications natives?
Alors les deux, c'est pas forcément, mais c'est ça fait partie de la réponse. D'abord, je dirais que l'innovation chez Sanofi, elle recouvre plusieurs réalités. Hein. Historiquement et traditionnellement, nous sommes une entreprise qui découvre, développe et commercialise des médicaments et des traitements. Donc nous avons une R&D et nous continuons d'investir des sommes importantes, hein, 4,5 milliards d'euros, dont la moitié à peu près en France. Donc ça, c'est le cœur de notre métier. Mais aujourd'hui, la santé, ça passe aussi par ces solutions. Et pour les développer, nous avons deux axes. Nous en développons en interne, nous avons une offre digitale et nous sommes résolument aussi engagés dans les partenariats parce que nous sommes convaincus que pour aller chercher ces solutions, nous avons besoin de partenaires technologiques d'une part et d'autre part aussi de structures beaucoup plus petites et agiles qui ont une capacité à innover qui est peut-être un peu plus rapide que la nôtre parfois, mais qui ont besoin de groupes comme les nôtres pour s'adosser et pour pouvoir développer leurs solutions.
Un an après, où en est-on de l'adoption de à la fois ces applications de santé connectée et également objets connectés de santé chez Sanofi France?
Alors je dirais que d'abord, nous avons chez Sanofi développé une offre digitale dans notre domaine thérapeutique, donc dans le domaine du diabète, de l'arthrose, de la douleur, de l'antibiothérapie. Donc aujourd'hui, nous avons des sites, des applications mobiles pour les patients ou les médecins ou les professionnels de santé qui n'existaient pas il y a encore un an. Nous suivons tous les mois leur utilisation par les gens à qui elles sont destinées. Donc moi, je dirais que globalement, nous sommes satisfaits de ces résultats, même si c'est quelque chose qui doit continuer à progresser. Et puis, au-delà, je dirais, nous travaillons sur des solutions plus radicales de télémédecine, notamment l'une d'entre elles avec Voluntis et le Cerit en France, qui est une solution de télémédecine, où là aussi nous conduisons une étude médico-économique avec plusieurs centaines de patients. Et là, on est sur quelque chose qui prend plus de temps, qui requiert plus d'investissement, parce qu'on est vraiment dans une prise en charge qui est différente.
Alors, vous le disiez pendant la conférence de presse, lors des trophées de la santé mobile organisés par DMD Santé, vous précisiez que la technologie, c'est bien. Mais comment on provoque, comment on pousse l'adoption de ces applications et objets connectés? Comment on force quelque part l'usage?
Alors je crois pas qu'on force l'adoption. Par définition, les gens adopteront ou pas ces solutions. La réponse que nous on essaye d'apporter à cette question qui est tout à fait fondamentale, c'est finalement de le faire avec eux. Donc nous travaillons de plus en plus avec les associations de patients pour d'une part mieux comprendre leurs besoins et de l'autre les intégrer le plus tôt possible dans la construction de ces solutions ou à minima, je dirais, de les faire évaluer ces solutions avant que nous-mêmes nous les mettions à disposition. Il en va de même avec les professionnels de santé, que sont les médecins, les pharmaciens, par exemple. Il existe aussi des formats d'innovation qui facilitent ça. Par exemple, le hackathon de Strasbourg, donc qui est un événement sur quelques jours très très concentré, qui rassemble tous ces gens-là, donc des médecins, des patients, des pharmaciens, tous les professionnels de santé, des industriels comme nous, des designers, des développeurs. Et c'est un espèce de concours qui dure 48 heures ou 72 heures. Et à partir d'une idée donnée au départ, un groupe pluridisciplinaire se constitue et doit proposer un prototype à l'issue du week-end. Et l'avantage, si vous voulez, c'est que vous mettez tous les gens concernés autour de la table ensemble.
Médecins y compris,
qui sont volontaires, hein, c'est très très ouvert. Et à l'issue de ça, vous avez des prototypes. Et après, bien sûr, le défi, c'est d'arriver à le mettre en œuvre concrètement. Mais en tout cas, ce sont des formats qui permettent d'accélérer justement la co-construction, ce qu'on appelle la co-construction de ces outils avec tous les gens qui sont concernés.
Mais alors, les applications, les technos existent, mais est-ce qu'un des freins ne serait pas la réglementation française?
Alors, effectivement, c'est l'un des défis. Quelle réglementation? Aujourd'hui, puisque c'est un domaine émergent, je dirais la réglementation doit elle-même s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on appelle de nos voeux à l'émergence d'un label, hein, et c'est aussi l'activité d'une société comme DMD Santé ou les trophées de la santé mobile, pour favoriser des critères uniques, homogènes d'évaluation de ces applications. Donc je dirais les pouvoirs publics doivent eux aussi suivre le mouvement. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils prennent la mesure de ce changement, mais puisqu'on est dans quelque chose d'émergent, bah, c'est émergent pour tout le monde. Voilà.
Est-ce qu'à terme, Sanofi, c'est peut-être déjà le cas, est-ce que Sanofi pourrait être distributeur, vendeur d'objets connectés de santé? à terme?
Alors, je dirais que nous avons donc un directeur général, donc Olivier Brandicourt, qui est arrivé en avril et qui a précisé en novembre ses orientations stratégiques, où il a réaffirmé un certain nombre d'axes stratégiques importants pour Sanofi. Nous sommes résolument engagés dans la question de la santé connectée. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est lui qui l'a signé, que nous avons fait cet accord avec Google. Donc il y a une volonté d'aller dans ce domaine-là. Sous quelle forme, ça c'est encore un peu tôt pour vous répondre.
Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Gilles Littmann. Je rappelle, vous êtes directeur innovation et performance de Sanofi France. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec notre passion Sonon Sanette. Vous êtes sur BFM Business. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On revient dans un instant.